Bonjour, au micro Idrissa Sédoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la candidature du président Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat le 31 octobre, a été acceptée et celle de l'ex-premier ministre Guillaume Soro et de l'ancien président Laurent Gbagbo rejetée. Nous y reviendrons dans un instant, tout comme sur la Guinée, où le fichier électoral pour la présidentielle du 18 octobre a été contesté sitôt publié. Le dialogue avec les groupes armés relève d'un besoin humanitaire pour avoir accès aux populations sur les territoires qu'ils contrôlent, a souligné lundi le président du CICR, Peter Moore, réfutant des allégations de connivence avec les groupes djihadistes. Un article reprochant au CICR de pactiser avec les groupes armés djihadistes au Burkina Faso avait suscité de vives réactions au sein de la population burkinabé. En République démocratique du Congo, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, une fidèle de l'ex-président Joseph Kabila, a dénoncé lundi des insultes sexistes à la veille d'une rentrée parlementaire sous haute tension au sein de la coalition au pouvoir avec le président Félix Tshisekedi. Dans un message à l'AFP, Madame Mabunda a dénoncé les propos, je cite, d'un homme qui se revendique du parti présidentiel. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, un homme a déclaré, entre autres en Lingala, Madame Jeanine doit nous prouver qu'elle est réellement de la province de l'Équateur. Peut-on se déclarer ressortissante de l'Équateur et être mince et élancée comme la sœur de Paul Kagame, c'est-à-dire le président du Rwanda? Paul Rusesabagina, dont l'histoire pendant le génocide des Tutsis en 1994 a inspiré le film Hôtel Rwanda, a été inculpé lundi notamment pour terrorisme, meurtre et financement des rébellions par un tribunal de Kigali. Il a demandé au tribunal de lui accorder une remise en liberté sous caution, affirmant avoir besoin de soins médicaux constants. Mais l'accusation a estimé qu'il présentait un risque de fuite à l'étranger. Le tribunal se prononcera sur sa requête jeudi. Au Mozambique, le gouvernement a dénoncé lundi une vidéo montrant l'exécution brutale d'une femme nue par des hommes portant des uniformes militaires et qu'il a soupçonné d'être une insurgée djihadiste. Le ministère de la Défense a condamné ces horribles images et appelé à l'ouverture d'une enquête pour vérifier leur authenticité. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou signe ce mardi lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche des accords historiques sous l'égide du président Donald Trump avec les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis et de Bahreïn, des accords qui bousculent les équilibres au Moyen-Orient. C'est la première percée de ce type depuis les traités de paix signés par l'État hébreu avec l'Égypte et la Jordanie en 1979 et en 1994. Le président Trump a promis une riposte 1000 fois plus forte à toute attaque de l'Iran. Auparavant, son secrétaire d'État, Mike Pompeo, avait affirmé lundi qu'il prenait au sérieux des informations sur un projet présumé de l'Iran pour assassiner une diplomate américaine. Ces informations ont été dénoncées comme sans fondement par Téhéran. Selon le site d'information Politico, un tel assassinat qui viserait l'ambassadrice américaine en Afrique du Sud, une proche de M. Trump, serait pour venger la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué en janvier par une frappe américaine sur ordre du président Trump. Une cour d'appel de Californie a jugé lundi que rien n'empêchait légalement le gouvernement du président Donald Trump d'expulser des ressortissants de 4 pays qui bénéficient d'un statut protégé temporaire en raison des conditions humanitaires dans leur pays d'origine. Ces 4 pays, Haïti, Nicaragua, Salvador et Soudan, sont désormais sûrs, estime l'administration Trump. Sont concernés quelques 300 000 personnes. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington, D.C.
Le
La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a invalidé les candidatures de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro à la présidentielle d'octobre, tandis que celle du président sortant Alassane Ouattara a été validée. Le point avec Abdourahmane Dia.
Sur les 44 candidatures reçues, seules 4 ont été acceptées. Celle de Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat, l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié, de Kwadio Konan Berthe alias Kakabé et de l'ex-premier ministre Pascal Affinguesson, candidat d'une des branches du Front populaire ivoirien. La publication de la liste des candidats retenus à la présidentielle du 31 octobre intervient alors que des manifestations et marches contre la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat ont dégénéré hier en affrontement avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes ivoiriennes. À Yopougon, grand quartier populaire d'Abidjan, des échauffourées ont brièvement opposé de jeunes manifestants aux forces de l'ordre. À Bangolo, des manifestants ont incendié des véhicules mais ont été dispersés par la gendarmerie à coups de gaz lacrymogène. Des barrages ont tenté de bloquer plusieurs routes dans l'ouest mais ont été démantelés. En Côte d'Ivoire, les mandats présidentiels sont limités à 2, mais les partisans de M. Ouattara affirment que le changement de constitution en 2016 a remis le compteur à 0.
En Guinée, l'opposition a contesté lundi le fichier électoral en vue de la présidentielle du 18 octobre. Elle a accusé la Commission électorale nationale d'avoir gonflé l'électorat dans le fief du pouvoir. Le point avec Eric Manirakidza.
Le fichier comporte plus de 5,4 millions d'électeurs, a dit la commission électorale. La région d'Okankan, fief du président Condé dans l'Est, compte 22% des inscrits, soit plus d'un million d'électeurs. Le bastion du principal opposant, c'est Lou d'Alain Diallo. À l'Abbé dans le Nord, représente 8% de l'électorat. Ces disparités posent des interrogations, a dit Aliou Condé, est responsable du parti de Selou d'Alain Diallo. Il cite l'exemple de Mandiana dans la région d'Okankan qui compterait aujourd'hui plus de 200 000 électeurs contre 84 000 en 2010. La CEDEAO a dépêché depuis le 7 septembre 3 experts pour assister la Commission électorale nationale dans l'établissement du fichier en vue de la présidentielle du 18 octobre. Mais la commission a présenté le fichier comme définitif sans faire apparaître clairement la part des experts de la CEDEAO dans l'élaboration des listes. Elle a indiqué que la distribution des cartes d'électeurs commencerait vendredi. 12 candidats ont été autorisés par la Cour constitutionnelle à se présenter à une autre présidentielle à haut risque en Afrique de l'Ouest.
En République démocratique du Congo, des dizaines de chercheurs d'or artisanaux qui ont péri dans l'accident d'une mine vendredi dans l'est du pays, représentent le premier maillon vulnérable d'une chaîne d'approvisionnement souvent clandestine qui va jusqu'à Dubaï. Nanik Talani.
Au moins 22 corps de creuseurs ont été retrouvés hier, 4 jours après la catastrophe dans la cité minière de Kamituga dans le sud de Kivu. Les creuseurs cherchaient de l'or sur le site d'une filiale de la société canadienne Bonoro qui a annoncé la suspension de ses activités il y a un an. Ils revendaient l'or qu'ils parvenaient à extraire au péril de leur vie à des comptoirs d'achat et des négociants locaux qu'ils exportent vers le Burundi et l'Ouganda voisins. Selon un rapport des Nations Unies, Dubaï demeure la destination finale de l'or produit clandestinement en RDC. L'ONG Impact souligne que l'exploitation minière artisanale constitue le moyen de subsistance de 10 millions de Congolais. Au total, la production artisanale d'or représente 25% de la production industrielle, d'après Maître Lambert Djunga, avocat spécialisé dans les mines.
La Binuteco, Nanik Talani.
Le Ghana veut augmenter le prix du cacao garanti aux agriculteurs d'au moins 21% à 1 745 $ la tonne pour la saison 2020-2021 qui commence à partir du 1er octobre. Le Ghana rejoint ainsi la Côte d'Ivoire qui prévoit d'augmenter pour la même saison le prix garanti aux producteurs de plus de 21% à 1 000 francs CFA le kilo contre 825 francs CFA. En juin 2019, les deux pays ont établi un prix plancher de 2 600 $ la tonne et un différentiel de revenu vital de 400 $ par tonne. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent plus de 60% de la production mondiale de fèves de cacao. En Afrique du Sud, Harmony Gold a annoncé ce lundi avoir finalisé le processus d'achat des actifs d'AngloGold Ashanti pour environ 300 millions $. À partir du 1er octobre, Harmony prend ainsi le contrôle de Mine West Solutions et de Mponeng, la mine d'or la plus profonde du monde. Le ministère sud-africain des mines a approuvé la vente à condition qu'AngloGold Ashanti ne se retire pas de la bourse de Johannesburg. Pour terminer, le géant en ligne Amazon veut créer 100 000 nouveaux emplois aux États-Unis et au Canada en ouvrant 100 nouvelles installations dans les deux pays. Les nouveaux bâtiments comprendront des centres de distribution et de postes de livraison. Amazon a déjà créé plus de 175 000 nouveaux emplois depuis mars. Malgré le coronavirus, Amazon a récemment signalé une augmentation de 40% des revenus trimestriels à près de 89 milliards de dollars.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Nicolas Nkoulou fait son retour en sélection camerounaise. Les Lions Indomptables seront en stage aux Pays-Bas du 5 au 13 octobre. Pour les prochaines journées FIFA, le Cameroun fera face au Japon en match amical le 9 octobre à Utrecht. Le sélectionneur Tony Conceição a retenu une liste de 32 joueurs, parmi lesquels le défenseur du Torino qui était en retrait de la sélection depuis le sacre à la CAN 2017. Le milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne, Ivan Neyou, a été appelé pour la première fois. Les autres cadres comme Éric-Maxime Choupo-Moting, André Onana, Karl Toko Ekambi, André-Franck Zambo-Anguissa, Clinton Dié et Vincent Aboubakar ont été convoqués. De son côté, la Guinée a dévoilé ses adversaires du mois prochain dans le cadre des journées FIFA. Le Sili National affrontera les requins bleus du Cap-Vert le 10 octobre et trois jours plus tard, il affrontera la Gambie à Faro au sud du Portugal. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel va se pencher mercredi sur les 5 cartons rouges distribués à la fin du Classico remporté dimanche par Marseille contre le Paris Saint-Germain 1-0. Le joueur vedette du PSG, Neymar, a accusé un adversaire d'injures racistes. Le club a soutenu son attaquant qui fait partie des 5 exclus. Les membres de la commission indépendante sont chargés de déterminer le nombre de matchs de suspension encourus par les Parisiens Neymar, Levin Kurzawa et Leandro Paredes et par les Marseillais Dario Benedetto et Jordan Amavi, tous exclus dans le temps additionnel à l'issue d'un début de bagarre. Selon le barème disciplinaire de la fédération, un joueur se rendant coupable d'un acte de brutalité peut être puni jusqu'à 7 matchs de suspension si celui-ci intervient en dehors d'une action de jeu sans entraîner de blessure. L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, connaîtra demain mercredi son jugement à Paris dans l'affaire de corruption sur fond de dopage russe pour punir une infraction énorme à la probité qui a causé un préjudice mondial. Les procureurs financiers ont requis 4 ans de prison et une amende maximale de 500 000 euros contre l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme lors de son procès en juin pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Le Sénégalais de 87 ans est jugé pour avoir permis de retarder à partir de 2011 des procédures disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage sanguin en échange de financement de Moscou.
Dans À votre avis, votre émission interactive 18h05, temps universel sur VOA Afrique, nous allons parler des élections américaines. Le président républicain Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden s'affronteront lors du scrutin présidentiel le 3 novembre prochain. Entre Donald Trump et Joe Biden, qui est votre candidat et pourquoi ? À votre avis, c'est à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Laissez vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À votre avis, c'est tous les jours à 18h05, temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les travaux de la concertation nationale ont permis l'adoption d'une charte de transition. Le M5-RFP dit ne pas se reconnaître dans le document final après 3 jours de discussion. Plusieurs leaders politiques ont aussi dénoncé des zones d'ombre, notamment sur le choix par les militaires d'un président de transition et d'un premier ministre, ainsi que sur la formation d'un organe législatif. Notre correspondant Kassim Traoré a recueilli des réactions à Bamako.
Ces journées de la concertation nationale ont permis aux Maliens de se parler, de discuter de l'avenir du pays. Zabi Ould Sidi Mohamed, participant.
Le premier ministre peut être civil, mais cette transition, si on veut que vraiment le pays s'en sorte, il faut laisser les militaires gérer la chose. On dit qu'on n'est pas content que l'autorité de l'État du Mali n'est pas sur le terrain. Mais quel est le civil que vous allez mettre qui peut mettre un appareil efficace et qui va mettre le
Fad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du Gatia, trouve que les militaires ne peuvent pas gérer la transition.
Est-ce que Hassimi Goïta, si demain on les trouve dans un luxe présidentiel, ces hommes sur le terrain, ils vont accepter de faire face aux ennemis? Les militaires que je vois ici, ils ont beaucoup de travail. Aujourd'hui, ils sont tous en uniforme ici. Demain, vous leur donnez des fonctions civiles, vous les verrez tous en costume. Et que tous les autres hommes-là, ils vont venir faire la même chose. Donc, on ne doit pas commencer par construire un Mali qui sera défait demain. Le fait qu'ils se sont entendus le 18, il y a pas, c'est déjà suffisant pour l'armée pour mettre la pression sur qui que ce soit à la transition.
La synthèse de la concertation n'a pas été acceptée par certaines participantes comme Sey Mariam Traoré, présidente de l'atelier 4.
Venons de suivre la synthèse des travaux de 3 jours. On s'est rendu compte que les préoccupations du peuple malien n'ont pas été prises en compte. Et nous sommes déçus parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mères. Nous nous sommes battus pour le changement dans ce pays-là. Et nous nous rendons compte que nous n'avons pas été considéré nulle part et nous sommes déçus.
Au cours des débats, l'ancien premier ministre Moussa Mara a fait savoir que la charte viole la constitution actuelle du Mali.
La première discussion majeure d'abord sur ce document, ce sont ses rapports avec la constitution. Le document, il dit qu'il complète la constitution, mais le document, il viole la constitution en beaucoup d'endroits. Donc pour moi, il faut qu'on soit clair. Soit ce document suspend la constitution de 92 et il crée les conditions d'une vraie transition avec les organes, avec tous les éléments, soit on va dans la constitution de 92, mais on ne peut pas être au milieu.
Le M5-RFP de son côté a rejeté le document en bloc. Shogel Kokala Maïga, membre du comité stratégique du M5-RFP.
Le M5-RFP condamne la non-prise en compte unilatérale de nombreux points du document qui n'avaient pas fait l'objet ni de rejet, ni même de réserve dans aucun groupe. La volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir du peuple au profit du CNSP ne saurait justifier les méthodes employées qui affaiblissent gravement le processus de transition.
À la fin des travaux, le cinéaste Souleymane Cissé n'a pas caché sa colère. Il était parmi les délégués des artistes du Mali.
Moi, je suis pas satisfait parce que la culture est toujours laissée de côté. Et ce mouvement, si cette charte-là est faite sans tenir compte de la culture des arts, vraiment, on reviendra encore dans 10 et dans 20 ans dans cette salle. Pourquoi ? Depuis 60 ans.
Plusieurs observateurs pensent que des correctifs peuvent être apportés à la charte qui d'ailleurs n'a pas été adoptée par les participants de la concertation nationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Niger, le corps électoral est convoqué pour les élections le 13 décembre. Les régionales se tiendront avant la présidentielle du 27 décembre. L'opposition rejette le fichier électoral biométrique malgré son caractère fiable selon l'OIF qui l'a audité. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie ont déclaré à l'issue des 5 jours de travail que le fichier électoral biométrique nigérien est fiable. Ils ont toutefois fait quelques recommandations à la Commission électorale nationale indépendante.
Rééquilibrer les bureaux de vote dont le nombre d'électeurs est moins de 50. Car le code électoral prévoit un minimum de 50 électeurs par bureau de vote. Corriger les données des électeurs avec un statut non valide et ayant ayant obtenu un numéro d'identification nationale. Il y a environ 7000 électeurs. Publier le répertoire des bureaux de vote. Publier la liste électorale sur Internet. Mettre en œuvre un système de consultation de la liste électorale par Internet et par SMS.
L'opposition politique qui boycotte l'ensemble du processus électoral a rejeté en bloc les résultats de cet audit. Amadou Jbo Ali Dimax, un de ses leaders.
Comment voulez-vous qu'on vienne dire qu'on a audité un fichier tel que celui du Niger en 5 jours? Est-ce que c'est sérieux? C'est de la mascarade. C'est de l'arnaque. Et il faut que ça se sache au nom de l'opposition. C'est que vous le savez déjà, que cet audit est rejeté. Et j'en appelle à l'OIF de faire attention à sa crédibilité.
Au niveau de la majorité, l'on estime que tout cela est du dilatoire. Les partis politiques de l'opposition finiront par prendre part à ces élections. Mohamed Bazoum, candidat et président du parti au pouvoir.
Nous savons que tout le monde est en train de se préparer pour ces élections. Nous ne connaissons pas un seul parti qui en a les capacités, qui n'est pas en train de préparer des dossiers pour toutes les élections. C'est parce que nous sommes sûrs que, au-delà du discours, ils savent que ces élections sont régies par des textes qui sont des textes justes. C'est le code électoral, en l'occurrence. Et ils savent que leur participation au processus électoral est garantie par un texte sur lequel il n'y a pas beaucoup de débats à faire.
Après les résultats de l'audit, la Commission électorale nationale indépendante a officiellement remis le fichier aux autorités. Vendredi, le président Issoufou Mahamadou a signé le décret de convocation du corps électoral pour les premières élections, les régionales, prévues le 13 décembre prochain. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, une mine d'or s'est effondrée vendredi sous des pluies torrentielles à Kamituga, dans le sud Kivu. Certains corps ont été retrouvés, mais des dizaines d'autres creuseurs artisanaux qui travaillaient sur les lieux sont portés disparus. Eddie Isango a joint le maire de la ville de Kamituga, Alexandre Bounia.
On a récupéré quelques corps de 12 heures, c'était vers 19h. On a essayé un peu de patienter pour extraire d'autres corps, mais malheureusement, jusque-là, on n'avait pas encore abouti à récupérer. Mais d'ici quelques heures, on va récupérer d'autres. Mais nous venons de constater qu'il y a une décomposition de ce corps-là. Nous allons procéder tout à l'heure à l'enterrement. Ce sera maintenant l'enterrement partiel.
Mais combien de corps avez-vous déjà récupéré?
Hier, c'était 18 corps. Et à ce point où on est en train de parler, on vient de récupérer notre corps. L'opération évolue très bien parce que les gens qui ont tenté de défaire les recherches pour continuer, nous venons de les défaire avec les matériels. La recherche se poursuit.
Et vous avez institué une ville morte de 2 jours. Est-ce que ça a pris fin? Et c'est cette opération qui a permis de récupérer ce corps?
Non, ce n'est pas une ville morte, mais la ville est répandue.
Mais qu'est-ce qui s'était passé exactement pour qu'il y ait cet accident?
C'est la pluie qui a causé l'accident. Quand on parle de la pluie, vous savez que aussi chez nous, il y a la période de la saison sèche et la saison pluvieuse. Maintenant, nous venons de quitter la saison sèche. Nous entrons maintenant dans la saison pluvieuse. Maintenant, les gens ne s'entendent plus à la saison pluvieuse. C'est ça. C'est la pluie pluvieuse comme je l'ai annoncé depuis longtemps.
Mais est-ce qu'on sait combien de gens travaillaient sur ces sites-là? Travaillaient-ils clandestinement ou c'était des creuseurs artisanaux? Parlez-nous un peu de la situation là-bas.
Oh oui, ce sont des creuseurs artisanaux. Ce sont des creuseurs artisanaux qui faisaient leur travail.
Parlez-nous un peu de la situation des lieux du lieu. C'est quoi? Ils creusent, ils vont sous la terre à combien de mètres? Est-ce que c'est sécurisé? Tout ça, parlez-nous un peu de ça.
Quand ils creusent ici chez nous, ils peuvent arriver même à 100 mètres, à 80 mètres, à 150 mètres, selon matériel en possession. Bon, ce sont des mines locales, hein. Ce n'est pas les mines d'une société, c'est la population qui s'implique. C'est débris elle-même. Hein. C'est de l'or.
Nous avons appris qu'il y aurait eu beaucoup de gens portés disparus. Combien de gens travaillaient sur ces sites-là?
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore vus. Ça, c'est une réalité. Et on met toujours en train de faire le mieux possible pour atteindre et récupérer tout ce corps.
Des députés locaux parlent de plus de 50 disparus ou de morts. Est-ce que vous avez vérifié ça?
Bon, on a été un peu de raisonner autour de ça. Ça peut être une réalité ou non, mais jusque là, on n'est pas encore à faire le mieux possible. C'est pourquoi je vous disais qu'on va passer à faire l'enterrement partiel.
Alexandre Bundia, maire de Kamituga, dans le Sud Kivu, en RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
La côte ouest des États-Unis continue de subir des incendies meurtriers et destructeurs. Les feux de forêt font rage dans cette région annuellement pendant plusieurs mois. Des élus locaux appellent à lutter contre le changement climatique qui, selon eux, a conduit à un record d'incendies cette année. Le président Donald Trump s'est rendu ce lundi à Sacramento pour discuter de la situation avec des responsables de la Californie. Reportage de Michel Quinn, repris ici par Lionel Gahiba.
Dans l'Ouest américain, une atmosphère enveloppe les communautés, rappelant à chaque bouffée d'air la crise et la souffrance des populations. Des dizaines de personnes sont mortes et plusieurs milliers ont été obligés d'abandonner leur foyer. Les responsables locaux attribuent ces incendies aux effets du changement climatique. Le gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom.
C'est une sacrée urgence climatique. C'est réel et ça se passe. C'est la parfaite tempête. Cela se passe d'une manière sans précédent, année après année.
Le président Donald Trump, lors d'un rassemblement électoral samedi à Reno, dans le Nevada, s'est prononcé sur les incendies.
J'ai parlé aux gens de l'Oregon, de Washington, ils n'ont jamais rien vu de tel. Mais il s'agit de gestion des forêts. Souvenez-vous de ces mots très simples. Gestion des forêts, souvenez-vous. Il s'agit de la gestion des forêts et d'autres choses, mais de la gestion des forêts.
Les élus démocrates des États de Washington et de l'Oregon contestent cette qualification des faits par le président Jeff Merkley, un sénateur démocrate de l'Oregon.
Vous savez, le président a dit qu'il s'agissait de gestion de la forêt. C'est juste un mensonge énorme et dévastateur. Nous avons des blocs de neige qui fondent et sont devenus plus petits. Nos forêts sont devenues plus sèches. Nos océans sont devenus plus chauds et plus acides. Et cela se produit régulièrement au cours des dernières décennies.
Certains dirigeants dans l'ouest des États-Unis appellent à une action urgente contre le changement climatique. Le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee.
Il est exaspérant lorsque nous avons ce défi cosmique pour nos communautés, avec toute la côte ouest des États-Unis en feu, d'avoir un président pour nier que ce ne sont pas seulement les incendies de forêt, ce sont des incendies climatiques. Et si ce n'est pas déjà un signal aux États-Unis, je ne sais pas ce que cela prendra.
Certains militants écologistes se sont plaints que Joe Biden, le challenger démocrate du président Trump, n'ait pas fait du changement climatique un enjeu majeur dans sa campagne. Au cours du week-end, M. Biden a publié une déclaration appelant à agir maintenant contre le changement climatique. Ainsi, les incendies catastrophes naturelles et leurs causes pourraient devenir un autre thème de campagne cette année.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Roger Montou. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidounia et Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.